la redoutable tâche d'ouvrir cette discussion sur l'état d'exception et sur le retour du colonial, et plutôt la normativité de l'état d'exception dans la période postcoloniale, en me rendant compte que, lorsque j'ai dû préparer cette intervention, qu'il existe vraiment un point aveugle en ce qui concerne nos propres disciplines, en ce qui concerne le fonctionnement de l'empire colonial au niveau institutionnel, et qu'il nous manque toute une série d'outils méthodologiques dans nos propres disciplines pour envisager une interprétation cohérente du fonctionnement de l'entreprise coloniale, de ses institutions, mais également du fonctionnement de tout ce qui se passe au moment du passage au post-colonialisme, comme on l'a dit, et à l'autonomisation des États post-coloniaux en Afrique. Donc on s'est posé la question de savoir à quoi pouvait tenir ce point aveugle méthodologique, c'est ce fait que dans nos études, il n'y a eu rien du tout. Il y a une absence absolue de la prise en compte de ce passé, mais aussi sur les institutions qui ont donné lieu, par exemple, au fait que le 13 mai, nous allons fêter l'avènement de la Ve République à travers un coup d'État qu'il y a eu en Afrique française du Nord. C'est-à-dire que le général de Gaulle, le 13 mai 1958, dans le cadre de la guerre d'Algérie, fait un coup d'État avec toutes les structures militaires derrière, qui l'appuient et qui lui font qu'on vire la 4e République et qu'on instaure les institutions de la 5e République. Donc le 13 mai 58, c'est aussi l'anniversaire du coup d'État du général de Gaulle qui instaure la 5e République. Mais interrogeons-nous aussi sur quelles sont les origines de ce point aveugle. J'en ai vu à peu près trois. Premièrement, l'histoire officielle de la libération a inculqué dans notre imaginaire collectif l'idée que puisque nous étions libérés de l'Empire, du troisième empire allemand national-socialiste, et que nous avions châtié les responsables supplétifs des forces impériales conquérantes, à savoir les collaborateurs, et démantelé leur appareil répressif, milices, etc., et que nos forces libératrices venaient pour une large part de notre propre empire, cet empire ne pouvait être que de nature libérale, juste, pacifique, républicaine et démocratique. Les tirailleurs sénégalais de l'armée de Delattre s'y libéraient les métropolitains, ne pouvaient en quelque sorte qu'être eux-mêmes des hommes libres. Ça, c'est le premier point aveugle. Le deuxième élément intéressant, c'est que le processus de décolonisation est couvert du secret que possède tout domaine lié à l'exercice de la violence militaire. Ceci pour dire que notre empire d'Extrême-Orient ou d'Afrique française du Nord ou même d'Afrique noire se sépare de la métropole dans des crises militaires douloureuses, des défaites ou des crises violentes que l'État central a soigneusement occulté du fait de leur dimension militaire et de leur conclusion éminemment négative sur le plan militaire. Il est encore difficile pour le citoyen lambda, par exemple, de connaître le vrai grade du général de Gaulle, qui n'est pas général, tout comme les opérations du plan Châle dans leur dimension organique pendant la guerre d'Algérie. Par exemple, on ne peut pas savoir comment les troupes se sont déplacées sur le terrain, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé. L'institution militaire est une institution qui se nourrit du secret de façon fonctionnelle. Troisièmement, il est encore plus difficile de s'intéresser à la période postcoloniale, celle de la transition et puis suivante, car le verrou est double. Il est militaire, il est aussi politique, puisque le général de Gaulle a pris soin de découpler la République de son domaine réservé, c'est-à-dire du domaine qui concernait justement l'adaptation des structures répressives de la période coloniale aux impératifs de la guerre froide dans le bastion géostratégique français de l'Afrique subsaharienne appelé le précaré et qui a vu apparaître des pays formellement indépendants avec tous les critères formels de la démocratie représentative, une constitution, un système parlementaire, des élections suffrage universel avec la touche française de la période qui marque la Ve République, le parlementarisme rationalisé, c'est-à-dire faible. Un président de la République partageant son autorité avec un Premier ministre, puis élu au suffrage universel, avec des scores de président africain ou français maintenant. Ainsi, ce qui semble être une des caractéristiques de notre histoire impériale, puis de notre aventure géostratégique qui a suivi le cours de la guerre froide et qui concerne non pas les Français ou la France, mais qui concerne une partie de l'exécutif de l'État français. Ça, c'est intéressant, à mon avis, à relever. et qui va mener une guerre extérieure alors que la partie interne de notre République métropolitaine était en paix. En d'autres termes, la guerre, qui d'une certaine manière commence en 1939 pour l'institution militaire, continue pour certains secteurs spécialisés, troupes coloniales, puis de marine, légions étrangères, forces spéciales, à faire son métier bien au-delà. D'un autre côté, les nouveaux États émergents en Afrique, mais pas seulement, en Amérique latine également, se sont dotés d'appareils répressifs spécifiques, propres à lutter contre un ennemi tant extérieur qu'intérieur, marqué par des caractéristiques de l'ennemi idéologique de la guerre froide. Et ce processus, nous l'avons déjà expliqué dans d'autres travaux. Mais néanmoins, comment aborder cette question de l'état d'exception comme étant un des éléments structurels qui fait que, justement, nous sommes dans un espace où il est très difficile de pénétrer, où il est très complexe de s'intéresser aux mécanismes intimes de cet état d'exception qui renvoie à tout un ensemble de procédures juridiques, de normativités qui ont toutes pour point d'ancrage la gestion d'une violence spécifique. On a beaucoup argumenté sur la notion d'état d'exception. En règle générale, qu'est-ce que ça veut dire état d'exception ? C'est une situation institutionnelle qui implique une réponse très rapide, impliquant l'application d'une violence lorsque la situation générale remet en cause l'équilibre même des institutions. C'est-à-dire que, dans certaines circonstances exceptionnelles, l'État sort de son propre droit et va utiliser des moyens particuliers pour restaurer son autorité dans un espace déterminé. Cette théorie de l'état d'exception, cette pratique de l'état d'exception, il y a deux façons de la voir. Soit on considère, avec certains auteurs, que c'est simplement le passage à la dictature, avec comme modèle la dictature romaine, où, dans le cadre républicain, on a un espace institutionnel qui prévoit que tous les pouvoirs sont brusquement concentrés dans une personne qui va rapidement prendre les décisions d'envoyer la troupe, par exemple, ou de déclarer état de siège, ou de déclarer état d'urgence. Et d'un autre côté, une autre théorie qui veut que l'État, brusquement, va gérer un espace où il n'y a plus de normes et il va devenir un espèce de lieu vide où il n'y a qu'une seule chose qui existe, c'est un rapport violent. Je pense, de mon côté, que, et ça va être le thème que je vais aborder maintenant, qu'il existe, et justement l'espace colonial, postcolonial le démontre, toute une normativité de la violence, tout un ensemble complexe qui est lié justement à cet état d'exception. Comment cet état d'exception se manifeste-t-il dans notre Constitution ? Essentiellement en France, aujourd'hui, par ce qu'on appelle l'article 16. Cet article 16, il faut l'avoir en mémoire, puisqu'il va devenir un objet que nous allons regarder d'un peu plus près et voir comment il est disséminé dans tout l'espace africain. L'article 16 dit « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances, après consultation officielle du Premier ministre, des présidents des assemblées, ainsi que du Conseil constitutionnel. Il en informe la nation par un message. Ces mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. Le Conseil constitutionnel est consulté à leur sujet. Le Parlement se réunit de plein droit. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. » Chose remarquable, cette définition du pouvoir du président que beaucoup de commentateurs ont qualifié de pouvoir dictatorial, de la possibilité, dans le cadre de la Constitution, d'intégrer la dictature républicaine, ces dispositions constitutionnelles ne seront appliquées qu'une seule fois en France, entre le 23 avril 1961 lors du putsch d'Alger et septembre 1961, mais où le général de Gaulle a joué de cette norme constitutionnelle pour légitimer un pouvoir fort en France, puisque le soi-disant putsch d'Alger était tout à fait inoffensif et terminé dès le 25 avril 1961. Et il va proroger les dispositions de l'article 16 jusqu'en septembre. Or, au-delà de cette remarque, fait intéressant, les constitutions africaines, en particulier celles qui font partie de notre précaré, encore aujourd'hui, possèdent leur article 16 ou son équivalent. Si je prends la constitution gabonaise de 1991, elle indique à son article 26 « Lorsque les institutions de la République, l'indépendance ou les intérêts supérieurs de la nation, l'intégrité de son territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacés d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels est interrompu, le président de la République prend par ordonnance, pendant les intercessions, dans les moindres délais, les mesures exigées par les circonstances, et après consultation officielle du Premier ministre ou du Président de l'Assemblée nationale, ainsi que de la Cour constitutionnelle, il en informe la nation par un message. Pendant les sessions, ces mesures relèvent du domaine de la loi. L'Assemblée nationale ne peut être dissoute, ni la révision de la Constitution entamée ou achevée. » Ça se ressemble quand même pas mal. La République islamique de Mauritanie en 1991, dans son article 39, lorsqu'un péril imminent menace l'institution de la République, la sécurité ou l'indépendance de la nation, l'intégrité de son territoire, et que le fonctionnement régulier des pouvoirs constitutionnels est entravé, le président de la République prend les mesures exigées par les circonstances après consultation officielle du Premier ministre, etc., etc. L'article 25 de la Constitution mauritanienne du 22 mars 1959 est exactement le même. 1959. L'article 87 de la Constitution tchadienne du 14 avril 1996 reprend exactement la même terminologie. Mais exactement. C'est-à-dire que je prends aussi l'article 53 de la Constitution du Niger. L'article 19 de la Constitution ivoirienne du 3 novembre 1960 est intéressante. C'est une des premières constitutions qui est toujours en vigueur aujourd'hui, avec quelques modifications. Et on retrouve encore une fois dans son article, l'article 16 de la Constitution de 1958, notre article 16, avec quelques toutes petites modifications. Ceci pour dire que nous avons là un dispositif légal constitutionnel que l'on retrouve partout et qui a lieu de définition, qui donne un espace constitutionnel à ce qu'on appelle l'état d'exception. Alors il est intéressant de regarder comment, au moment où on instaure les constitutions africaines, les juristes africanistes, les constitutionnalistes de l'époque, vont commencer à regarder ces constitutions. Qu'est-ce qu'ils disent? Comment ils les commentent? On va le commenter en faisant une superbe euphémisation. Les commentaires mettent en avant immédiatement qu'on a affaire à de fortes chances qu'il y ait des dictatures. En effet, on se rend compte que ce pouvoir exceptionnel du président de la République est aussi entouré de toute une série de dispositions qui amoindrissent ses relations avec le Parlement, les parlements locaux. Il peut passer par-dessus l'Assemblée nationale très rapidement. Il a des possibilités de promulguer des lois de son propre chef. Il y a la possibilité référendaire qui peut court-circuiter à un moment les parlements locaux, les assemblées locales. Et beaucoup de commentateurs vont dire que, somme toute, il n'y a pas vraiment de séparation des pouvoirs dans les nouvelles constitutions africaines. Et d'autant plus qu'en période de circonstances exceptionnelles, ces pouvoirs deviennent encore plus étendus que ceux que pourrait même avoir un président normal, par exemple de type nord-américain. Des commentateurs comme Lavrov, qui sont des juristes constitutionnalistes de la période des années 60 à 80, soulignent que les dispositions de l'article 16 dans les constitutions africaines ont été élargies dans des nouvelles constitutions des États africains, rendues plus facile la mise en œuvre des pouvoirs exceptionnels et moins sévères les contrôles, et pour le commentateur, le risque a été pris, pense-t-on benoîtement alors, de voir un président de la République peu favorable à la démocratie établir une véritable dictature en appliquant à la lettre la Constitution. C'est-à-dire que les commentateurs se rendent compte qu'il se passe quelque chose quand même. Et on va avoir à partir de ce moment-là une superbe entreprise de masquage et d'euphémisation des risques constitutionnels à l'intérieur même des constitutions que pourtant des Français ont aidé à instaurer dans le domaine postcolonial africain. On va commencer par parler de pouvoir présidentiel. La notion de dictature va être écartée. On va dire que c'est des pouvoirs présidentiels. Reconnus potentiellement dictatoriaux, mais la notion de dictature va petit à petit être écartée. Il existe, en effet, une sorte de syllogisme général, bien juridique, qui va qu'on peut décomposer de la manière suivante. Je me base sur des citations que l'on retrouve chez les commentateurs et les présentateurs des nouvelles constitutions africaines. Prenons la majeure. Elle contient trois termes particuliers. Petit a. Les principes constitutionnels des nouveaux États africains sont tout à fait classiques. Ils sont très proches des principes énoncés dans la Constitution française de 1958. En effet, on y trouve la devise dans toutes les constitutions du principe démocratique suivant, gouvernement par le peuple et pour le peuple. Avec ça, on est rassuré. Petit b de la majeure encore, bien entendu, tous les États d'Afrique francophone adoptent le régime républicain, qui, selon les commentateurs, ne peut faire l'objet d'aucune proposition de révision. Pourquoi ? Parce qu'une autre solution est inconcevable, pour le moment, pour des raisons évidentes et multiples, soulignent les commentateurs. Quelles sont ces raisons évidentes et multiples ? Des leaders élus, des tendances mondiales, possibilité du renouveau des luttes tribales en cas de monarchie. Voilà. Là, on verrouille un petit peu. Petit c, troisième élément de la majeure. Du côté des grands modèles, américains, anglais et français, l'adoption de normes très proches de la Constitution de 1958 est avérée. Non seulement elle permet de donner l'impression d'appartenir à un ensemble au sein duquel l'unité d'inspiration constitutionnelle était nécessaire, en bénéficiant de l'expérience constitutionnelle de la France. La France est une garante de bonne constitutionnalité parce qu'elle a elle-même une bonne constitution. Regardons les mineurs du raisonnement syllogistique. Première mineure. La constitution ou un exécutif est largement prépondérant. La constitution de 1958 permettait d'adapter à des pays insuffisamment développés le système parlementaire dont la bonne application demande un certain niveau de développement économique et une maturité politique. Deuxième mineure. C'est pour cela qu'avec l'indépendance, les constituants africains ont de leur côté voulu que la prépondérance au sein de leur système constitutionnel soit mieux assurée en donnant aux chefs de l'État les moyens d'agir sur les assemblées. Conclusion. Ainsi, nous sommes en présence de régimes présidentiels au sein desquels la prépondérance de l'exécutif est renforcée. Il s'agit d'un système constitutionnel original que l'on qualifie habituellement par le terme de présidentialisme. On est sorti de la dictature, on est dans le présidentialisme. Et dans toute la littérature juridique qui va suivre, on parlera de présidentialisme africain. Le problème de la dictature, de la gestion de l'espace spécifique, normatif, de l'exceptionnalité, c'est-à-dire de la situation de crise, passera, comme cela, dans un immense entonnoir d'euphémisation, qui permettra de dire simplement que bon, il y a un régime, disons, présidentiel chez Mobutu, ou disons, chez Kayabanda, ou chez d'autres présidents qui sont simplement un petit peu autoritaires, mais on en a besoin là-bas, il faut maintenir l'ordre. Ceci constitue un premier grand mécanisme, tout de même, parce que lorsqu'on applique cette notion d'état d'exception avec un pouvoir présidentiel fort, il faut regarder d'un peu plus près ce qui va verrouiller, en quelque sorte, l'ensemble de la région africaine, puisque nous avons des dispositifs similaires dans chaque pays qui vont se doter de constitutions à la française. Il est vrai que des hommes comme Focard, par exemple, travaille avec des juristes de haute volée. Dans le cabinet de Focard, il y a un juriste qui s'appelle Alain Plantet, qui partage très rapidement en effet son bureau, qui est un spécialiste du droit colonial, et qui renvoie sans arrêt à sa pratique, déjà en tant que maître des requêtes au Conseil d'État, et qui sert disons, de relais institutionnel purement juridique. Les entretiens que j'ai eus avec lui, c'est un juriste pur. C'est un homme qui ne s'intéresse pas du tout à ce que fait Foccart, dit-il. Lui, c'est la partie militaire renseignement, moi, c'est la partie droit. Et c'est vrai qu'il va gérer toute la transformation du système colonial en système républicain local. Et il va recaser ensuite tous les responsables locaux dans la fonction publique, etc. C'est-à-dire qu'on va avoir une réintégration du personnel colonial à l'intérieur de l'administration française, ce qui va faire perdurer toute une petite mentalité, peut-être, à certains moments donnés. Quoi qu'il en soit, quand on regarde comment est traité le passage de la France coloniale ou des colonies françaises à sous la 4e République, puis à la 5e République, on se rend compte qu'il y a un système institutionnel de l'Union française à travers la Constitution de 1946 qui est absolument, si on n'est pas préparé, illisible. C'est-à-dire qu'on a affaire à une normativité baroque. Je crois qu'Olivier en parlera peut-être à un moment, mais nous avons affaire à des textes constitutionnels qui sont d'une complexité incroyable. Et si on n'a pas été formé, par exemple dans une université, à lire cette partie-là, on ne la comprend pas. C'est incroyablement complexe. De même, si on prend le titre de l'Union française, Constitution de 46, et après celui de la communauté qui est dans notre Constitution de la Ve République à ses débuts, on se retrouve aussi devant une réelle difficulté. Le système constitutionnel qui va organiser l'Empire en mutation sous la 4e République, si on regarde de près son fonctionnement, et puis le système de la 5e République, on va se rendre compte qu'il y a un domaine qui va s'autonomiser, qui est, à partir du moment qu'on va passer au régime de la communauté, en 1959 pour être plus précis, à un système qui va comprendre la politique étrangère, la défense, la monnaie, la politique économique et financière commune, ainsi que la politique des matières premières stratégiques. C'est-à-dire qu'on va faire rentrer petit à petit les critères coloniaux, classiques, impériaux, dans un espace particulier où il va être défini à travers un ensemble de textes très, très, très curieux, puisqu'il s'agit simplement de décisions présidentielles, c'est-à-dire du général de Gaulle, où il est clairement établi, à partir du 9 février 59, à travers un ensemble de 16 décisions que personne, à part les spécialistes, ne connaissent. C'est-à-dire que ça n'a même pas été inscrit dans une quelconque constitution. Il faut aller rechercher dans un recueil spécifique le contenu de ces 16 décisions, où finalement on va organiser la présidence de la communauté, l'organisation des forces qui vont être chargées du maintien de l'ordre, de la gendarmerie, de l'armée, et on peut remarquer que une des décisions du 9 février 1959 relative à la défense de la communauté souligne que dans son article unique, l'armée chargée de la défense de la communauté est une. Elle est placée sous une organisation unique de commandement. N'oublions pas que le président de la République est le chef des armées. N'oublions pas que le président de la République est le chef des armées. De même, une autre décision du 9 février 59, au même moment, fixe les conditions d'emploi d'éléments de l'armée pour le maintien de l'ordre public dans les États. La formule est toujours la même. Le président de la communauté, le président de la République, formule et notifie la décision suivante. Article 1er. Des éléments de la gendarmerie peuvent être mis pour emploi à la disposition des chefs des gouvernements des États membres de la communauté pour le maintien de l'ordre public. Ces éléments conservent leur statut militaire et sont utilisés conformément aux règles traditionnelles d'emploi de la gendarmerie. Article 2. À la demande d'un chef de gouvernement, des éléments de l'armée peuvent être appelés à concourir au maintien de l'ordre public. Les éléments désignés continuent de relever des autorités de la communauté qui décident du concours à apporter. Une seule armée, plusieurs républiques, plusieurs systèmes de circonstances exceptionnelles similaires, on a là un dispositif qui commence à verrouiller un espace où la gestion de la violence, du monopole de la violence légitime français, si on reprend la définition weberienne, va s'étendre à l'ensemble des pays constitutifs de la communauté. Alors, si on regarde un peu plus précisément comment fonctionne cette normativité en tant que procédure de terme qui renvoie aux circonstances exceptionnelles. Derrière l'article 16, on l'a fait, derrière ses avatars.
Gabriel, oui, tu dis précisément, mais pas trop précisément,
pas trop, d'accord,
parce que sinon ton ami ne pourra plus parler.
D'accord, très bien. Derrière l'article 16 et ses avatars, on a une ossature particulière de sous-normes, qui sont des normes que l'on peut retrouver dans certains documents de l'École supérieure de guerre, par exemple, dans le dossier technique de guerre subversive, dans les études d'opération de 1956-57 à l'École supérieure de guerre de Paris, où il y a un gros dossier qui concerne justement l'organisation de cette structure qui va être utilisée en cas de recours à l'article 16 aux circonstances exceptionnelles. Elle renvoie à toute la législation française de l'état de siège et de l'état d'urgence. Il y a, pour commencer, un emploi tactique des forces terrestres en cas de danger interne et de défense intérieure du territoire et d'opérations en surface, c'est-à-dire lorsqu'il y a un ennemi qui se déclare localement. Deuxième partie, des lois d'exception qui renvoient justement à l'état de siège, loi d'urgence, état de siège et loi d'urgence, elle-même basée sur la loi de juillet 91, 1791, relative à l'état de siège, qui est le préalable à l'emploi à un moment donné de la terreur en France. La loi du 3 avril 1878 relative à l'état de siège en France, la loi relative au fonctionnement et à la compétence des tribunaux militaires en temps de guerre, 1916, la loi constitutionnelle du 7 décembre 1954, qui va faire que l'état de siège est déclaré dans les conditions prévues par la loi, etc., etc. Donc, nous avons un bloc de normativité qui est un bloc caché, qui se situe sous l'article 16 et qui va évoluer de façon parallèle à l'application de l'article 16 en fonction des expériences que vont tirer les militaires français des conflits coloniaux. En effet, très rapidement, ils vont intégrer ce qu'ils ont appris pendant la guerre d'Indochine et pendant la guerre d'Algérie, les intégrer comme éléments techniques susceptibles de faire fonctionner cet état d'urgence en tant que contrôle territorial. Cet ensemble normatif, je vais faire bref maintenant, cet ensemble normatif, on peut le décrire, il est très complexe, mais on peut le déterminer. Il y a des textes, il y a des renvois à des règlements d'armes qui citent des lois d'exception, qui renvoient tout un ensemble de techniques d'organisation de la violence légitime. Ces codifications vont avoir lieu entre 1957 et 1962, en particulier à travers ce qu'on appelle la défense interne du territoire, qui va intégrer, comme je vous l'ai dit, l'ensemble des dispositifs découverts par la pratique pendant la guerre d'Algérie, et qui vont ensuite circuler dans cette espèce de hiérarchie parallèle qu'a institué le système de la communauté avec le chef d'État unique qui décide de comment il faut organiser les forces armées, de comment il faut organiser la défense une et indivisible. On va ensuite l'intégrer dans les constitutions à travers les accords de coopération technique militaire. Tout le système est déjà codifié, il est en quelque sorte clé en main, prêt à être disséminé comme une arme spécifique. C'est une arme normative. Cette arme normative circulera à travers les accords de coopération technique ou les accords de défense. Il circulera à travers le réseau des attachés d'ambassade, des attachés militaires, qui vont servir les propres officiers qui ont été formés très souvent en France, qui sont passés à l'école d'état-major, ou qui ont fait les guerres coloniales, comme Eyadema, par exemple, ou comme Bokassa. Donc, ils vont être là comme bons récepteurs des doctrines militaires françaises, puisqu'ils les ont vus appliquer sur le terrain. Donc, on a là un ensemble de dispositifs, encore une fois, qui va perdurer dans le temps et dans l'espace. Alors, retour du colonial. Non, il n'y a pas de retour du colonial. Il y a simplement permanence de l'exceptionnalité. C'est-à-dire de la possibilité de gérer la violence, comme on a eu l'exemple en 2005, novembre 2005, où on a appliqué une partie du dispositif interne à l'application de l'article 16 qui est la loi de 1955 pour pacifier nos banlieues. Donc il y a permanence et loi de 1955 qui faisait directement référence à l'Algérie et au conflit algérien. Décalage dans le temps, décalage dans l'espace peut-être, mais permanence dans la normativité de cette violence.